Je voulais vous remercier de m'inviter à partager, vivre ce moment de culte avec vous. Je vous propose aujourd'hui, c'est pas le texte du jour, mais je vous propose aujourd'hui un texte qui fera écho d'ailleurs au thème de l'espérance, ou à une partie du thème de l'espérance qui a été abordé tout à l'heure. Il s'agit dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, les versets 27 à 38, un texte que vous connaissez tous. Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et ils l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a donné cette loi. » Si un homme a un frère marié qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième, épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent tous sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme ? Jésus répond, « Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts, ils ne se marieront pas, car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu. » En étant héritier de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous ont par lui la vie. Et en 1 Corinthiens, au chapitre 15, juste 2 versets, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » Seigneur, ta parole est vérité. Conduis-nous sur le chemin de la vérité. Amen. Frères et sœurs, on peut remercier les Sadducéens de notre évangile qui, ne croyant pas à la résurrection, s'adressent à Jésus en espérant d'ailleurs le mettre à mal, lui tendre un piège et en même temps de se moquer aussi des pharisiens qui, eux, croyaient fermement à la résurrection. Mais mal leur en a pris, car ils ont donné à Jésus l'occasion de nous enseigner. C'est une des rares fois dans les évangiles où Jésus s'exprime aussi clairement, de nous enseigner donc sur la résurrection. Une réponse qui pour nous est importante, parce que nous nous posons nous-mêmes et nous nous sommes souvent posé cette question, comment pourrions-nous vivre ou comment allons-nous vivre après notre mort? Que représente pour nous, que sera pour nous la vie éternelle? Il faut savoir que les Sadducéens, qui est une branche du judaïsme, les Sadducéens s'en tiennent uniquement aux cinq livres, donc à la Torah, aux cinq livres de la Bible, et ils ne tiennent pas compte, ou ils ne considèrent pas comme parole de Dieu, ou comme enseignement de Dieu, les psaumes et tous les autres livres qui se trouvent dans notre Ancien Testament. Les Sadducéens, par ailleurs, mettent tout leur espoir dans la descendance. Étant donné qu'ils ne croient pas en la résurrection, pour eux, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir de la descendance, d'avoir des enfants, parce que c'est pour eux, en quelque sorte, la garantie d'une survie. Et c'est aussi pour ça, le fait de ne pas avoir d'enfants, que c'est une malédiction pour les Sadducéens. Pour les pharisiens, au contraire, et pour Jésus qui faisait partie d'une certaine façon du courant pharisien, pour les pharisiens, la mort débouche sur l'univers de la résurrection. Les pharisiens, ce sont des héritiers de tout un courant de pensée qui se fait jour dans le judaïsme, environ 2 siècles avant Jésus-Christ. Ils avaient la ferme conviction que la mort était ou est le passage obligé, inévitable, pour accéder pleinement au royaume de Dieu, à la vie éternelle. En même temps, la résurrection n'est pas considérée comme automatique. Elle est, ou disons, l'accès au royaume de Dieu n'est pas considéré comme automatique. Elle est destinée, ou il est destiné à tous ceux qui, durant leur vie terrestre, auront vécu en conformité avec la loi de Moïse. D'où, dans la bouche de Jésus, le jour du jugement dernier, et ce que Jésus dit à ce sujet, quand il reprend l'image du paysan qui va faire le tri entre le grain et l'ivraie. Après cette présentation un peu générale, revenons à l'attitude de Jésus. Jésus va donc répondre au piège qui lui a été tendu. D'abord, sur le fait même de la résurrection que nient les Sadducéens, et ensuite sur le comment de cette résurrection. Les Sadducéens disent « la Torah n'en parle pas ». Donc, on n'y croit pas, d'ailleurs ils ne croient pas plus aux esprits et aux anges, ce que dit la Bible. Hein. Mais Jésus lui aussi va citer la Torah. Et dans le même passage, mais dans l'évangile de Matthieu et de Marc, il invective les Sadducéens en leur disant « Vous êtes dans l'erreur car vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. » Pour redire les choses plus clairement, le texte que je vous ai lu tout à l'heure dans Luc, il y a 2-3 péricopes, c'est-à-dire ce texte est repris et dans Marc et dans Matthieu, et il y a juste une petite variante, c'est que dans Marc et dans Matthieu, Jésus invective les Sadducéens en leur disant « Vous êtes dans l'erreur, car vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. » Ce passage qui n'est pas repris dans le texte que je vous ai lu. Et oui, Jésus dit « Quand Dieu se présente à Moïse, dans l'épisode du buisson ardent, il se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et il ajoute « Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car tous ont par lui la vie. » Quant au comment de la résurrection, Jésus nous explique que la vie après la mort n'est absolument pas comparable à celle que nous vivons maintenant. Dans l'univers de la résurrection, notre identité sera conservée, notre conscience de soi sera conservée, mais les modalités de notre existence seront fondamentalement différentes. Ceux qui seront jugés dignes de voir part au monde à venir, je recite Jésus, et à la résurrection des morts, ne se marieront plus, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection. Et par ailleurs, Paul nous enseigne, s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ce thème, d'ailleurs, on le retrouve déjà dans la Genèse, quand Dieu créa l'homme et où il insuffle l'esprit dans l'argile, dans le passage de la création. Adam étant l'argile et le souffle de Dieu va donner vie à l'homme. Et même dans un autre passage encore, lorsqu'il est dit que l'homme est né poussière et retournera à la poussière, mais que son esprit retournera auprès de Dieu. La résurrection est finalement aussi, vous le comprenez, indissociable du royaume de Dieu. C'est au cœur de l'enseignement de Jésus. Il en est lui-même, Jésus, l'archétype, le premier type, puisque nous confessons en Jésus ressuscité, en qui nous fondons toute notre confiance, nous confessons notre foi, notre adhésion. Si on réfléchit un instant, on se rend à l'évidence que si on enlève des évangiles tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec la résurrection ou le royaume des cieux, l'enseignement de Jésus est en grande partie vidé de sa substantifique moelle. Ainsi, comme le confesse l'apôtre Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi notre foi. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Nous pourrions en rester là. Je n'aurai pas grand-chose de plus à dire sur cette partie. Nous pourrions en rester là, mais ce serait faire, à mon avis, une grosse méprise. Car ce serait oublier, justement, une toute autre dimension de la résurrection, celle précisément durant notre vie terrestre. Et c'est ici qu'il est utile de revenir un instant aux sources des Écritures grecques et hébraïques, pour bien comprendre ce qu'on veut dire ou de quoi on parle quand on parle de résurrection. Dans nos conversations courantes, comme je le fais d'une certaine façon maintenant, lorsqu'on parle de résurrection, on a tout de suite à l'esprit la vie après la mort physique, la mort de notre corps. Mais dans l'hébreu, comme dans le grec, le terme que nous traduisons par résurrection recouvre une expérience beaucoup plus large, beaucoup plus importante que seulement la vie après la mort. D'ailleurs, je ne devrais pas dire ce terme, mais je devrais dire ces mots, car il y a plusieurs mots pour parler de la résurrection dans la Bible. En effet, dans les textes grecs ou dans l'hébreu, le mot qu'on traduit par résurrection, en fait, désigne le réveil, le surgissement. le passage de la position couchée à la position debout, le fait de se relever, l'action de revivre, de vivifier. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, verset 11, on peut lire « Vous connaissez le temps où nous sommes, c'est le moment de vous réveiller. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin, mais maintenant il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie, le jour va se lever. » L'expression « il est temps de vous réveiller » pourrait être traduite, mais en français, du coup, ça ne marche pas très bien, par « il est temps de vous ressusciter » ou de ressusciter. En fait, quand on dit que Jésus est ressuscité, on dit qu'il s'est relevé. Dans le texte, c'est ça. Il s'est relevé, il s'est réveillé des morts. Les théologiens, mais je pense que n'importe quel lecteur attentif de la Bible, et surtout des écrits de Paul, les théologiens ont constaté depuis longtemps que Paul s'intéresse très peu à la vie terrestre de Jésus, à son ministère terrestre. La théologie de Paul est centrée sur la mort et sur la résurrection du Christ, sur le salut par la grâce, sur le rapport de la loi et du péché. Mais l'enseignement de Jésus, son humanité, les nombreuses guérisons qu'il a pu prodiguer auprès des malades, des lépreux, des boiteux, des aveugles, des possédés, Paul en parle très peu. Or, pour faire un pendant avec ce que j'ai dit tout à l'heure, supprimons des évangiles toutes les guérisons physiques et spirituelles du ministère de Jésus. Supprimons tous ces passages où Jésus se tourne vers les malades, vers les gens sourds, aveugles, vers les lépreux. Supprimons tous ces passages et on peut dire là aussi encore que les évangiles seraient réduits de leur substantifique moelle. En effet, Jésus a passé son temps, toute sa vie, à relever les malades de corps et d'esprit, à ouvrir les yeux des aveugles à une réalité nouvelle, à ouvrir les oreilles des sourds à son enseignement, à réveiller ceux qui dorment de leur sommeil de certitude. Il a passé son temps à relever et redonner dignité aux exclus, aux laissés pour compte. Oui, la résurrection, ce n'est pas uniquement quelque chose qui va se produire après notre mort. La résurrection commence ici et maintenant. Pour tout être humain, toute personne qui rencontre Jésus et lui ouvre son cœur. La résurrection, elle a déjà commencé pour nous tous qui mettons notre espérance en Christ. Pour nous tous qui ne restons pas sourds à son enseignement, pour nous tous qui ouvrons nos yeux et notre cœur sur la réalité du royaume, qui sortons de notre sommeil de certitude, qui osons nous libérer du vieil homme qui sommeille en nous, pour nous tous qui espérons au-delà de toute espérance. Nous tous qui avons connu et qui connaîtrons encore des souffrances, des échecs, des doutes, des maladies, mais nous tous qui avons connu aussi le fait d'avoir été relevés de nos échecs, remis debout de nos doutes, de nos culpabilités, de nos angoisses, grâce à l'amour et à la puissance vivifiante du Christ. Oui, Jésus, en tant que Christ, est la puissance qui peut vaincre les forces démoniaques qui dominent notre vie, notre corps et notre esprit. Mais gare à celui qui regarde en arrière, comme la femme de Lot qui fut pétrifiée en statue de sel, comme Pierre marchant sur les eaux qui se mit à douter et commença à se noyer, comme les vierges insensées qui se sont endormies, comme les apôtres qui n'ont pas su rester éveillés lors de la passion du Christ. Gare aux craintifs et paresseux serviteurs de la parabole des talents, qui préféra le mettre en terre plutôt que de le faire fructifier. Comme les invités aussi aux noces qui se sont décommandées. Oui, gare aux hommes qui mettent la main à la charrue et regardent en arrière. Pourtant, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et rappelons-nous que s'il y a bien un corps spirituel, il y a aussi un corps animal et une vie terrestre, au cours de laquelle Jésus, le Christ, nous exhorte d'ores et déjà à nous relever, à nous réveiller, à nous mettre debout. Je prends même le risque, en tout cas je l'assume pour moi, je prends même le risque de penser que nous n'hériterons pas de la vie divine si durant notre vie terrestre, nous n'avons pas mis toute notre énergie, tout notre cœur, toute notre passion à nous convertir et à chercher le royaume de Dieu. D'ailleurs, réfléchissons un peu. Ne serait-il pas absurde d'attendre une vie future, au-delà de la mort, et de passer à côté de notre vie terrestre, plongée dans le sommeil des gisants? Ne serait-ce pas faire offense à l'appel de notre Seigneur de nous convertir, à l'appel de notre Seigneur de nous relever, de nous réveiller? Pourquoi dès lors attendre que les jours passent et espérer vivre dans le royaume de Dieu après la mort? Oui, la résurrection, j'en suis absolument convaincu, commence ici et maintenant. Jésus nous exhorte à participer avec les moyens que nous avons, avec la personnalité que nous avons. Jésus nous exhorte à participer dans le quotidien de nos jours, à son royaume, prémisse de la résurrection future et de la communion qui nous sera promise ou offerte dans la vie divine. Pour finir, je citerai un verset, un passage d'Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Enfin, Jésus nous témoigne, je suis la résurrection, qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Amen.